choix.
98.1
Radio X.
Radio X.
C'est Miguel.
More Live. Real talk, talk real. The business of the world with Miguel Ouellet.
Prof Miguel, tu es salué.
Salut Dom, ça va bien?
Très bien, nous sommes dans la classe, nous sommes des élèves modèles, on a nos uniformes, on est au privé, au public, on est au privé. Tu travailles pour l'IEDM.
Une vraie bonne école privée. Là.
Une bonne école privée, parfait. Là, on a nos iPads, on a nos tablettes, nos laptops. Et donne-nous un cours ce matin d'économie, d'économie 101. Tout ce qu'on vit, je veux que tu me fasses un genre de one-on-one, un cours d'entrée, juste pour donner les outils à tout le monde dans la grande famille de More Live pour qu'on comprenne mieux les nouvelles lorsqu'ils nous parlent, entre autres, d'inflation. Parce que, je vous dis, ça frappe de partout, ça fait vraiment mal, à commencer par à la pompe et dans le panier d'épicerie. Vas-y, prof, vas-y comme tu le sens. T'es vraiment un prof en passant, dois-je le rappeler, au HEC, là.
Exact. Puis en plus, c'est les examens intra cette semaine. Donc, j'avais pas de cours à donner. Je me disais, hey, je suis en congé. Puis là, tu m'arrives hier. Hey, veux-tu me donner un cours?
Mais c'est un cours basique, là. C'est un cours basique. Ben non. C'est pas de la macroéconomie, mur à mur.
Exact. Mais on peut commencer en parlant d'inflation, si tu veux. Parce que l'inflation, je pense, c'est un des concepts qui nous touche le plus dans la vie de tous les jours. Quand on voit le prix augmenter à la pompe, en ce moment, il y en a même qui disent que le prix d'essence va atteindre 2 $. Après ça, quand on voit le prix des carottes, de la salade, de la viande augmenter, ça nous impacte, ça diminue notre pouvoir d'achat. Donc, ce que j'aime dire, c'est que l'inflation, c'est un peu une taxe déguisée ou une taxe sur la classe moyenne et les pauvres. Parce qu'en fait, quand on regarde l'inflation, là, son impact est réellement régressif. Donc, ça touche plus les gens à faible revenu et les retraités. Pourquoi les gens à faible revenu? Bien, simplement parce que si le coût de l'épicerie augmente, ça va impacter plus monsieur, madame, tout le monde que Céline Dion. Ensuite, pourquoi ça impacte davantage les retraités? Bien, c'est que si toi, Dom, un jour tu vas être retraité, tu vas recevoir une...
Je vais être retraité! Miguel est bonne! Je vais te dire une affaire. Oui, j'ai des économies, mais selon la situation actuelle des choses, je vais travailler jusqu'à ma mort. Je ne suis pas en train de dire que je vais faire un 70 heures semaine. Mais ça se peut très bien qu'à un moment donné, vous me voyez à 75 ans dans un Lowe's, dans le département des fleurs, un petit 20 heures. Là. Je pense que je vais avoir besoin d'argent jusqu'à la fin de mes jours. Ça va coûter cher tantôt, mon Miguel, hein?
Oui.
La maison des aînés?
Ben oui, c'est ça, c'est le vieillissement de la population, tout ça. Donc là, l'inflation nous coûte cher, la pandémie, c'est un grave problème pour les finances publiques et tout. Oui. Mais ce qui nous guette, c'est vraiment aussi le vieillissement de la population qui va venir mettre une énorme pression sur les finances publiques. Donc, présentement, c'est le temps de regarder nos finances publiques puis d'appliquer plus de rigueur. Donc là, on a l'inflation qui est en train de monter. En septembre, l'inflation a monté environ à 4,4. Donc, c'est quand même du jamais vu depuis 1991. Donc, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est quand même quelque chose.
Qu'est-ce qui drive ça autant aussi vite vers le haut? Prof.
C'est ça. Il y a plusieurs causes qui drivent l'inflation vers le haut. La première, c'est quand l'État décide, en fait, quand la Banque du Canada décide d'imprimer de la monnaie. En fait, présentement, pendant la pandémie, là, la masse monétaire de la Banque du Canada a augmenté de plus de 50 %. Donc, qui paye toutes les dépenses de Justin? Bien, il faut de l'argent pour payer ça. Bien, c'est la Banque du Canada qui, entre autres, imprime de l'argent ou fait des opérations qui sont appelées d'assouplissement quantitatif. Donc, qui achètent des obligations du grand public pour mettre de l'argent dans l'économie. Donc, pour payer ces dépenses-là, la banque imprime de l'argent, ça crée de l'inflation. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, bien, on a toutes les chaînes d'approvisionnement dans le monde qui ont été perturbées par les mesures sanitaires. Par exemple, si on a une usine en Chine qui nous envoie ici des intrants pour notre usine de table, mettons, bien, si cette usine-là en Chine devait fonctionner à 50 % de sa production, bien, c'est certain que nous, ici, il va y avoir une certaine rareté de nos produits, ce qui va faire en sorte que les prix vont gonfler. Donc ça va faire
très bien
une pression
expliqué.
Inflationniste aussi. La troisième affaire que je pourrais te dire, Doom, c'est que, évidemment, si la population reçoit des chèques chaque mois par le gouvernement fédéral et un peu le gouvernement provincial, bien, on a plus d'argent dans nos poches. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a plus d'argent dans nos poches? On ne le cache pas en dessous du matelas, on le dépense.
Et il n'y a pas nécessairement plus de produits qui sont manufacturés. Il n'y a pas vraiment, il y a la même capacité de production, mais il y en a même moins de par la dislocation, c'est ça, des chaînes de production. Mais là, il y a plus de monde qui ont de l'argent à dépenser, un argent qui n'est pas nécessairement épargné. Donc, tu as plus de clients pour moins de services et de biens.
Bien, effectivement. Puis pendant la pandémie, là, j'ai regardé les chiffres, puis les gens au Québec ont épargné 12 fois plus qu'en 2019.
Quand même.
Donc ça, c'est de l'argent qu'on a de plus dans nos poches. Puis c'est pour ça que les gens se sont garochés sur le marché immobilier, qui ont acheté des maisons qui ne pourront probablement pas se payer quand les taux d'intérêt vont augmenter. Donc ça, c'est une chose. C'est quand on a plus d'argent, on dépense plus, les prix augmentent. Là, ensuite, les chaînes d'approvisionnement qui sont tout croches dans le monde. Après, on a la masse monétaire qui augmente. Donc on a vraiment le cocktail parfait pour créer des pressions inflationnistes. C'est exactement ce qu'on voit. Puis là, au sud des États-Unis, on a un président, Biden, qui nous dit « je vais dépenser encore plus pour relancer l'économie ». Mais toutes ces dépenses publiques-là vont faire encore grimper l'inflation. Donc, la Banque du Canada, je vous le dis, en 2022, là, dans la moitié de l'année maximum, n'aura pas le choix d'augmenter les taux d'intérêt.
OK. L'économiste en chef de Scotia, la semaine passée, a parlé d'une prévision de hausse de 8 marches. On va monter l'escalier de 8 marches, autrement dit. 8 hausses en 2 ans. Ce qui devrait nous amener à un taux avoisinant. Est-ce exagéré, prof, de dire près de 5 % de taux hypothécaire dans 2 ans? Est-ce que j'exagère ou c'est plus dans la zone de 4? Qu'est-ce que tu en dis?
Ça paraît quand même beaucoup, mais je pense que c'est une réalité qui pourrait arriver. Parce que là, la Banque du Canada nous disait, non, les prix augmentent, mais c'est temporaire. Mais là, il y a de plus en plus d'économistes et de plus en plus aussi d'experts à la Banque du Canada qui nous disent... Non, effectivement, ça risque d'être plus permanent qu'on le pensait. Donc, c'est certain qu'ils vont devoir augmenter les taux. Maintenant, est-ce que je pense que le taux d'intérêt va augmenter radicalement du jour au lendemain? Non. Je suis d'accord avec le président de la...
Ça va être des increments, ça. Ça va être par section. Mais il va en avoir 8 quand même en 24 mois.
Oui, c'est quand même beaucoup, puis on va le voir. Ça va faire mal à plusieurs consommateurs qui ont acheté des maisons puis qu'ils n'avaient pas prévu que les taux allaient augmenter. C'est sûr que ça va venir faire plus de pression sur notre portefeuille pour nos hypothèques et tout. Et ça va faire aussi en sorte toutefois que le prix des maisons vont se stabiliser. Parce que là, il va y avoir moins de gens qui vont vouloir emprunter étant donné les taux d'intérêt plus
élevés. Ou peut-être même baisser. Qu'est-ce que tu en penses? Puis tantôt, on jase avec un gars d'immobilier. Penses-tu que ce mouvement-là, à sa limite, va inciter les clients à aller porter leurs clés, leur trousseau de clés à la banque et à ce moment-là, qu'il va y avoir des maisons à vendre, carrément plus de maisons sur le marché à ce moment-là? Quand tu dis stabiliser, peut-être même une tendance à la baisse aussi, Miguel.
Ben oui, certainement, parce qu'il y a eu quand même une bulle pendant la pandémie. Là, le prix a monté en fou. Mais là, si on commence à augmenter les taux d'intérêt, effectivement, il y a des gens qui ne pourront plus payer pour leur maison, qui vont redonner les clés à la banque, qui vont mettre leur maison à vendre pour s'acheter une plus petite maison. Donc, ça se peut très bien que les prix se stabilisent et même diminuent. Donc, ça, on voit souvent ça sur des marchés. Il ne faut pas non plus virer fou avec ça. C'est normal qu'il y ait des fluctuations de prix, que ça augmente, que ça diminue, que ça augmente. Mais ça, souvent, c'est dû à certaines interventions, comme là, c'est dû à l'intervention du gouvernement fédéral qui nous a envoyé énormément d'argent. Donc, les gens ont acheté plus de maisons. Mais oui, je suis parfaitement d'accord que ça se peut que le prix des maisons diminue un peu ou du moins croît moins rapidement que ça a été le cas dans les derniers mois. Là.
Comment tu entrevois la suite? Là, les banques centrales vont augmenter leur taux. Il y a une demande sur le pétrole. Parlons de pétrole. Il y a une grande demande sur le pétrole qui a un impact sur le dollar canadien. Dollar canadien qui est même, dit-on, même sous-évalué, il avoisine de 82 cents, imaginez. Où on s'en va? Parce qu'il y a quand même des nouvelles positives, entre guillemets, c'est-à-dire le dollar canadien augmente, ce qui nous permet d'acquérir des capitaux à l'extérieur, mais en même temps, ça rend les exportations moins attrayantes. Il y a quand même certaines bonnes nouvelles là-dedans. T'en as-tu des bonnes nouvelles, prof, de ton bord?
C'est une bonne nouvelle.
Sur le pétrole, étant donné qu'on est un pays producteur, ça peut être une bonne nouvelle. Le dollar canadien est raffermi. Là.
Effectivement, mais la seule bonne nouvelle que j'ai pour toi, Dom, c'est que Noël arrive dans 2 mois. Mais sinon, je te dirais, du côté de l'économie, là, c'est assez difficile.
C'est difficile.
Mais en fait, qu'est-ce qui est difficile dans tout ça, c'est que je vais t'avouer quelque chose, dis-le à personne, je ne suis pas fier de ça, mais j'ai écouté Tout le monde en parle dimanche dernier.
Oh!
Il y avait Jean Chrétien qui était là.
Il a fait une belle, lui.
C'était vraiment juste pour Jean Chrétien, d'ailleurs. Puis Jean Chrétien nous disait qu'il fallait qu'il était surpris de voir l'état des finances publiques, puis qu'il n'y avait pas plus de rigueur et tout ça. Puis il l'a dit souvent dans des entrevues auparavant. Ouais. Puis je suis 100% d'accord avec lui. Qu'est-ce qui m'inquiète présentement, c'est qu'on dirait qu'il y a un shift dans la vision politique. On le voit en ce moment avec Trudeau, on le voit avec Biden, on le voit avec plusieurs premiers ministres ou présidents en Europe. C'est que même s'il y a des pressions inflationnistes, on continue quand même à imprimer de l'argent, on continue quand même à dépenser. C'est comme si on se dit, ben, les dépenses gouvernementales, c'est pas grave. S'il y en a, il n'y a aucun problème. Mais en fait, tout ce qu'on dépense maintenant, c'est une taxe demain.
C'est
capoté. Donc, ça va nous coûter cher aux jeunes. Puis avec la population vieillissante, comme on disait, ben, ça va faire encore plus de pression fiscale sur nos jeunes. Donc là, on est en train vraiment là, de sacrifier des générations fiscalement parlant. Ça, c'est vraiment inquiétant pour moi. Puis j'espère que le premier ministre et les prochains gouvernements vont regarder ça et vont se dire il faut plus de rigueur budgétaire.
Bien, comme Yellen aux États-Unis n'a pas l'air à contrôler plus qu'il faut l'inflation. Ça aussi, c'est inquiétant. Là.
Bien, effectivement. Puis je pense qu'il y a aussi un chiffre de la vision de l'inflation elle-même. Dans les années 50-60 aux États-Unis, il y avait les monétaristes, donc leur leader, c'était Milton Friedman, qui disait que l'inflation était créée surtout par la création de nouvelles monnaies, par le fait qu'on imprime de l'argent. Ensuite, il y a eu les Keynésiens qui nous disaient « Ah non, c'est plus dû à la demande, à l'offre et tout ça. » Donc là, on voit que l'inflation, le concept est même plus clair pour
toi,
les gens. Donc,
dans ton école de pensée, comme économiste, en terminant, comme économiste?
Bien, moi, certainement que je crois que l'inflation... Puis on le voit dans les données, mais c'est créé en grosse partie par la création monétaire de la Banque du Canada. Ça, c'est sûr que je crois ça. C'est vrai qu'il y a des pressions, par contre, qui viennent de l'extérieur. Disons que la Chine commence à acheter énormément de biens canadiens. Bien, ça se peut qu'il y ait une pression à la hausse sur nos prix ici, mais à la base, je crois que l'inflation, là, c'est un concept de politique monétaire.
Hey, merci beaucoup. J'aime ça, faire ça avec toi.
Bien, c'était super plaisant.
Vraiment, garde. On n'a pas... T'es super bon, je veux dire. T'as une maîtrise de UFT. Tu t'enseignes d'un haut de sphère. T'es capable de nous en montrer rien qu'en masse. Mais tu sais, de prendre le temps de s'asseoir. La semaine prochaine, on fera un autre volet qui s'apparente à ça. Tu sais, de prendre le temps de s'asseoir et de l'expliquer comme du monde. Au moins, il n'y a personne qui nous l'explique à la télé. Le fait que tu prennes le temps avec nous autres de le faire calmement, puis c'est tellement clair. Tu es un bon communicateur, Miguel. Je te remercie d'être avec nous autres, c'est important, parce qu'il y a de l'anxiété. Oui, on essaie de nous raconter qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété, mais moi, c'est de l'économie. Tu comprends? L'éco, c'est pas l'écologie, c'est l'économie. L'éco-anxiété, pour moi, là, ça vient d'économie et non de l'écologie. C'est ma vision des choses. Puis, ça inquiète beaucoup les gens, ce qui se passe. Merci, Miguel. Bonne semaine.
Merci, Dom. À la prochaine.
Merci, bye. Je suis un éco-anxieux.
Mais...
Économie.
C'est ça.
Et non écologie.
Voilà.